Accès libre.
Bonjour tout le monde, c'est Benoît Rassette, c'est le moment de se faire un 90 minutes d'accès libre. La question de la semaine, vous l'avez certainement repéré déjà, est-ce que les personnes réfugiées en situation de handicap reçoivent suffisamment d'aide pour assurer leur inclusion au Québec? Que pouvons-nous faire pour les soutenir? Répondez à la question directement sur la page de l'émission d'Accès libre en tapant lecanalm.vusezvoix.com. En table ronde pour en discuter, il y aura Véronique Harvey, qui est travailleuse sociale et psychothérapeute spécialisée en intervention auprès des personnes réfugiées, au RIVO, qui est le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée, et aussi Sylvre du volet parrainage de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. En chronique, l'accès à la sexualité avec intervenante en santé sexuelle, Sonia Boucher. Il y a aussi ce nouveau chroniqueur qu'on est bien heureux d'accueillir, Tommy Théberge, qui va nous parler du monde municipal. On rencontre aussi Sébastien Lepage, qui produit actuellement son 4e spectacle d'humour. Vous allez apprendre pourquoi. Et dans un instant, on se pose la question suite à une loi qui a été proposée, déposée récemment par le gouvernement. Le revenu de base, dans quelques instants, et tout ça, évidemment, sur Canal M, la radio de Vusezvoix. Alors, plus tôt, au courant de ce mois de mars, le ministre François Blais, donc le ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale au Québec, qui, disons, a un penseur du revenu de base, qui était jadis à gauche, qui est maintenant un peu plus à droite, a finalement déposé un projet de loi en lien avec ce type de programme, mais pour un groupe en particulier. Et donc, c'est important parce qu'on l'annonce depuis longtemps, il y a eu toutes sortes de consultations. Parmi les gens consultés, il y a des groupes, notamment le groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec. Enfin, je dis consulté, c'est pas vrai directement, mais vous allez comprendre. Et on reçoit sa coordonnatrice, Sylvia Bissonnette. Bonjour, Sylvia.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Bon, alors, la grande question, c'est ce projet de loi 173 qui parle d'un revenu de base, de quoi il y en est exactement?
Oui, bon. D'abord, il faudrait d'abord donner la définition d'un revenu de base pour bien...
bien camper l'affaire, oui.
Oui.
Allons-y.
Donc, un revenu de base, ça doit être un revenu qui doit être universel, donc donné à tous, individuel, c'est-à-dire que chaque personne devrait recevoir ce montant d'argent-là et ça devrait être un revenu suffisant pour être capable de bien vivre.
Bon, et ça, c'est important, mais c'est une définition qu'on dirait que c'est pas tout le monde, que pas tout le monde partage.
Non, exactement. C'est pas une définition qui est partagée par tout le monde. La définition que je vous ai nommée, c'est la définition reconnue par le Basic Income. Mm-hmm. C'est un mouvement au niveau international qui revendique le revenu de base.
Bon. Donc, l'aide sociale, ce n'est pas un revenu de base, là, qu'on se comprenne.
L'aide sociale n'est pas un revenu de base, mais serait considéré un revenu minimum garanti, par contre. Mm-hmm. Parce qu'un revenu minimum garanti, c'est que ça garantit à une certaine couche de la population un minimum pour vivre.
Excellent.
Et dans le revenu de base, le revenu minimum garanti, le revenu de base est un peu plus progressif comme revenu.
Qu'est-ce que vous voulez dire par progressif? Vous voulez dire que ça...
C'est-à-dire que le revenu minimum garanti pourrait être considéré comme un... dedans, il y a à la fois... l'aide sociale est reconnue comme un revenu minimum garanti, mais aux États-Unis, quand les personnes reçoivent des bons pour des nourritures, ça aussi, c'est considéré un revenu minimum garanti. Donc, le revenu minimum garanti, c'est comme une grande appellation pour tout.
OK.
Et là-dedans, le revenu de base est beaucoup plus intéressant parce que là, on parle de quelque chose où ce que les gens devraient être capables de sortir d'une pauvreté absolue là, et qu'ils soient capables de relativement bien vivre.
Ouais.
Puis, ça devrait être universel également et aussi inconditionnel, c'est-à-dire que personne ne devrait avoir l'obligation d'aller travailler pour l'avoir, etc. Il ne devrait pas avoir de critères d'éligibilité non plus.
Mmh. Donc, c'est comme ça que vous défendez ce revenu social minimum garanti. Vous parlez aussi, vous et le Front commun des personnes à cité sociale, là, qui est un organisme frère, vous parlez du droit fondamental à un revenu décent. Là. Donc, c'est presque... On veut reconnaître des droits et libertés un peu là-dedans. Là.
Oui, exactement. Et les revenus, le revenu de base devrait reconnaître, devrait soutenir l'accessibilité à l'ensemble des droits pour une personne.
Bon, on comprend bien, on a mis la table avec tous ces revenus et ces nominations de revenus, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi il s'agit quand on parle du projet de loi 173? Qu'est-ce que ça va donner aux gens?
Oui, donc le projet de loi 173 avait été annoncé dans le troisième plan de lutte à la pauvreté. Mm-hmm. Le gouvernement voulait sortir 100 000 personnes de la pauvreté.
C'était l'objectif, oui.
C'était leur objectif par le revenu de base. Mm-hmm. Et là, dans ces 100 000 personnes-là, dans les chiffres, c'est 85 000 personnes qui sont présentement contraintes sévères à l'emploi. Okay. Depuis au moins 5 ans et demi. Mm. Hein, ils parlent de 66 mois. Et ces personnes-là vont avoir accès aux revenus de base, et donc ça va être la couverture des mesures de panier de consommation, qui est présentement autour de 18 000 par année.
Donc ça, c'est ce que ça coûte là, pour acheter les besoins de première nécessité, y compris loyer.
Exactement. Mmh. La nourriture, les vêtements, le loyer et le transport est compris là, dans ce panier-là de mesures de consommation.
OK. Et là... Vous trouvez que c'est tout à fait inéquitable parce que c'est une partie, et là-dedans, il y a des personnes en situation de handicap, il faut le dire, mais il y a aussi le handicap pris au sens large, la difficulté d'intégrer le travail au sens large. Vous trouvez que c'est inéquitable. Qu'est-ce qui manque à cette loi-là? Qu'est-ce qui manque à cette perspective-là?
Bien, disons que lorsque le ministre Blais a parlé de cette avancée-là, qui est le revenu de base, en effet, c'est une avancée pour une partie de la population. Ce qu'il a dit, c'était que pour une partie de la population qui va avoir le revenu de base, ces personnes-là vont avoir beaucoup moins de contrôle du ministère. Ils vont pouvoir mieux se loger, mieux manger et se payer une carte au puce. Donc, le gouvernement... Et quand il dit ça, le ministre, il dit aussi que toutes les autres ne peuvent pas faire ça.
C'est précisément ça, oui.
Oui, oui donc, nous, c'est ça qu'on trouve qui est injuste. C'est-à-dire oui. Que, oui, on est d'accord que les personnes en situation de handicap ont besoin d'un soutien spécifique pour aider à améliorer leurs conditions de vie dû à leur handicap. C'est-à-dire que si moi je suis... sa mobilité réduite, mais probablement que ma situation de vie me coûte plus cher qu'une personne qui est capable de se déplacer pour plein de raisons, OK? Parce que j'ai à payer quelqu'un qui va venir me faire à manger, quelqu'un qui va venir faire du ménage, etc. Puis que souvent, c'est pas, malheureusement pas gratuit, ces trucs-là, là. Et donc, nous, on reconnaît ça, mais sauf que les besoins essentiels de base, tout le monde a les mêmes besoins essentiels de base qui devraient être couverts. Et donc, le mesure de panier de consommation, tout le monde devrait avoir accès à ça. Mm-hmm. Et la difficulté qu'on voit, c'est que là, le revenu de base qui va être donné aux personnes lourdement handicapées, parce que c'est aussi ça que le ministre a dit, que les personnes qui vont recevoir ce montant d'argent-là, c'est les personnes lourdement handicapées. C'est pas inscrit comme ça dans la loi, bien entendu, mais le ministre a quand même sorti ça là, lors de la conférence de presse.
Oui. Parce qu'après ça, de toute façon, comme on le voit souvent dans les questions de soutien aux revenus, d'aide sociale, il va y avoir un règlement, là, puis une politique, puis quelque chose qui va venir préciser ou enlever des pouvoirs ou contextualiser le programme. Hein?
Oui, oui, mais présentement, on a analysé le projet de loi et ainsi que les intentions réglementaires. Il a déposé les deux en même temps. C'est la première fois qu'on voit ça là, au Québec, là, qu'un gouvernement dépose le projet de loi et les intentions réglementaires en même temps.
Ah oui, donc il est déjà sorti. OK.
Oui, puis ce qu'il souhaitait, dans le fond, dans l'intention réglementaire, c'est de pouvoir... que ça se fasse rapidement, que ça soit adopté rapidement, ce truc-là. Et c'est pour ça que le gouvernement a sorti tout de suite les règlements.
Oui, parce que les élections approchent.
Oui, exactement. Ce qu'ils souhaitent, c'est que ce projet de loi-là et les projets de règlement soient adoptés avant les élections.
Mm-hmm.
Oui.
Donc, Sylvia Bissonnette, on va être à court de temps. Je rappelle que vous êtes au groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec. Vous offrez de la formation, vous parlez aux gens aussi sur le revenu social minimum garanti. Il y a un endroit où on peut avoir de l'information?
Oui, vous pouvez aller voir sur notre site Internet au www.grfpq.org. À l'intérieur, nous, on va offrir une journée de réflexion sur le revenu de base en lien avec le revenu social universel garanti. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à voir cette formation-là, ils peuvent nous contacter.
Très bien. Et on ajoutera, bien sûr, le lien sur notre site Web. Merci, Sylvia Bissonnette.
Bien, merci à vous.
Aujourd'hui, la télévision est venue nous voir pour constater l'état du désespoir. Une couple de sans-abri à la veille de Noël. Ça, c'est un beau sujet pour le show des nouvelles. La caméra d'en face, j'y faisais des grimaces. Mais qu'est-ce qu'ils font là à filmer ma carcasse? C'est pour un reportage sur les plus démunis. Voudrais savoir ton nom, voudrais voir ton taudis. J'habite pas dans les taudis, m'appelle pas, je viens tout seul. En fait, t'es point C, il y a ben mon point sa gueule. Golden Johnny travaille pour les yuppies. Si j'avais le droit de voter, ben je voterais pas pour lui. Y'a l'armée du salut, pourquoi tu vis dans la rue? J'ai dit, fais passe-moi à Pâques, puis je vais en compter des budgets. D'intérêt public, de savoir si je me pique. Tu vois-tu dans la robine, tu fous-tu dans les poubelles? Parle-moi les détails de ta vie sexuelle. Bandette, branlette, canette, ginette. Quand t'es mangé, je m'en vais me saouler. Tu vas savoir plus long si tu me donnes un peu de fric. C'est comme le téléthon à des alcooliques. Alors mets du salut, pourquoi tu vis dans la rue? Que tu me penses moi à pas, puis je vais encore tes budgets.
On entend parler souvent de la sexualité chez les personnes en situation de handicap. Ne vous en faites pas. On n'a pas envie ici de faire un show avec ça. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est de proposer de manière respectueuse la question de l'accès à la sexualité avec notre intervenante en santé sexuelle, Sonia Boucher. Bonjour Sonia.
Bonjour Benoît, ça va bien?
Ben oui, très content de vous retrouver au micro. C'est une question dont on parle très souvent. On essaie ensemble d'en parler de la meilleure manière possible. Donc, est-ce que c'est difficile d'avoir accès à sa sexualité quand on est une personne en situation d'handicap, Sonia Boucher?
Donc, c'est sûr qu'il y a, comme d'habitude, toujours plusieurs volets à la réponse.
Oui!
Dans un premier temps, avoir accès à sa propre sexualité, c'est déjà difficile. On parle là ici de masturbation, d'intimité avec soi-même. Pour certaines personnes, c'est difficile d'avoir droit à cette intimité-là.
Ouais. Mais surtout quand on est en milieu institutionnalisé.
Même en maison intermédiaire, etc., etc. Ça peut être difficile. Là où on rencontre encore plus d'obstacles, c'est d'entrer en sexualité avec une autre personne. Parce qu'il y a plusieurs étapes hein, avant de rendre la sexualité avec une autre personne. Il faut d'abord la rencontrer.
Ouais.
Ça, c'est difficile. Et même pour les gens qui auraient envie d'entretenir une relation uniquement sexuelle avec, par exemple, quelqu'un qui habite dans le même établissement, là, on vient entrer en contact avec les valeurs les intervenants qui sont sur le milieu. Donc, il y a toute la question des valeurs, la question d'accès. Mmh. Et pour faire suite un peu ou pour rejoindre le sujet de Mme Bissonnette, il y a toute la question financière aussi.
Oui. Donc, parce que parfois, il faut sortir du milieu. Oui. Par exemple, si on est en CHSLD, en résidence intermédiaire aussi, ça demande un portefeuille. Puis on sait que la majorité des personnes en situation de handicap ont comme premier handicap la pauvreté. Hein? Bon.
Absolument.
Oui.
Et il n'y a pas juste le fait de sortir, il y a le fait du matériel, par exemple, se procurer des condoms, des mmh. jouets érotiques, mmh. Payer pour un bain supplémentaire, par exemple, après une relation sexuelle, alors qu'on peut avoir notre bain le matin même.
Ah, ben oui.
Donc, c'est plusieurs aspects à considérer au niveau de l'hygiène, au niveau de l'activité physique, au niveau des sorties, effectivement. Donc, oui, l'accès à la sexualité est souvent bafoué pour les personnes en situation de handicap, même dans les milieux qui sont ouverts. Par exemple, si tu me permets, je vais donner un exemple de cas que j'ai entendu récemment, un client qui aurait aimé avoir accès à la prostitution dans son milieu. Et ça lui a été refusé. On abordera cette question-là une autre fois, si tu veux bien.
Oui, en profondeur, oui.
Oui, mais pour pallier un peu à son besoin économique qu'il n'avait pas, il a demandé, est-ce que je peux au moins aller aux danseuses? Ce qui arrive, c'est que cette personne-là a besoin d'un accompagnement pour ses sorties.
Oui.
Maintenant, il faut entrer dans les valeurs des intervenants pour dire, oui, c'est une sortie que vous pouvez faire. Qui maintenant est à l'aise de l'accompagner?
Oui, absolument. Ça prend un accompagnateur ou une accompagnatrice. Un accompagnateur dans ce cas-là, je pense. Mais, en tout cas, désolé, vous voyez mes propres valeurs. Mais ça interfère toujours un peu, hein, on n'y peut rien. Mais donc, déjà, il est difficile d'avoir accès à des accompagnateurs. Alors, j'imagine quand on propose ce type de sortie en milieu ouvert, disons.
Ah, oui.
Je voulais pas faire de jeu de mots, mais bon, oui. En tout cas.
Mais c'est quasi impossible. C'est très difficile de se voir à l'encontre des valeurs de bien des gens au niveau, par exemple, de la femme objet, au niveau des valeurs financières de la sexualité. Mm-hmm. Donc, c'est plus juste une question de vouloir accompagner la personne, mais c'est autre chose aussi. Oui, effectivement, ça devient difficile. Et si on se met à la place de la personne, maintenant, qu'est-ce qui lui reste comme option?
Mm-hmm. La pornographie dont vous avez déjà parlé. Mais c'est pas très agréable pour plein de raisons sociales.
Absolument.
Ouais.
Et il faut pas oublier que la pornographie est souvent interdite dans la majorité des individus.
Ah ouais.
Oui, la simple consultation sur Internet est interdite.
Mm-hmm. C'est vrai parce que l'accès Internet, par exemple, quand on est dans un CHSLD ou ailleurs, est contrôlé. Donc, c'est ce que vous voulez dire?
Bien, d'abord, il faut avoir les moyens de payer pour l'accès Internet, parce que c'est pas gratuit avec l'établissement.
Oui.
Et oui, sont contrôlés. Et si parfois c'est pas contrôlé, ça demeure interdit pour des raisons de vie commune. Donc, faut s'assurer qu'il n'y a personne qui va passer devant ta chambre qui va voir ça et que ça pourrait offenser, par exemple.
Je vous pose une question polémique en terminant. Est-ce que vous sentez que c'est plus difficile pour les personnes qui ont déficience motrice, par exemple, ou les personnes qui ont déficience intellectuelle, de pouvoir avoir accès à la sexualité là, à cause de tous les barrières dont on parle?
C'est une excellente question. En fait, c'est pas plus ou moins difficile pour un groupe ou pour un autre. Par contre, les enjeux sont différents. Pour une personne qui a une déficience intellectuelle, qui n'aura pas eu d'accès à une éducation adéquate, ça va être très difficile à ce moment-là d'articuler le besoin.
Oui, effectivement.
Comment le demander? Et pour la personne pour qui ça va être facile de l'exprimer, ils vont dire « oui, mais là, tu as besoin d'un accompagnement ».
Oui.
C'est tout cet aspect-là, finalement, physique, d'aide à la sexualité, qui va être un enjeu différent. Donc, chacun a des enjeux bien différents, mais qui prennent beaucoup de place dans l'émancipation sexuelle des personnes, qui devient très difficile.
Et de là, la nécessité, parfois pour les établissements, d'adopter une charte des droits sexuels ou des choses comme ça pour normer, penser d'avance, puis consulter. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon point d'ordre, ça?
Je pense que vous connaissez très bien ma réponse, M. Rassette. On a discuté plusieurs fois ensemble. Effectivement, c'est primordial de penser le droit à la sexualité autant que le droit à l'hygiène, par exemple, ou d'autres besoins de base dans ces milieux de vie.
Ben écoutez, c'est un plaisir, comme toujours, d'entendre votre chronique sur la santé sexuelle. Sonia Boucher, je rappelle que vous êtes intervenante en la matière et on se retrouve certainement dans moins d'un mois.
Avec plaisir, M. Rassel. Je vous souhaite une très belle fin d'émission.
Oui, prenez soin de vous. Merci.
Merci, bye-bye.
Question de la semaine. Est-ce que les personnes réfugiées en situation de handicap reçoivent suffisamment d'aide pour assurer leur inclusion au Québec? Que pouvons-nous faire pour les soutenir?
Continuez de répondre à la question en le faisant sur vusetvoix.com ou encore sur les réseaux sociaux. Merci d'interagir avec nous. C'est une question dont on parle assez peu souvent. Et pourtant, Montréal, qui se targue d'être ville sanctuaire ou d'autres grandes métropoles qui se targuent aussi de l'être, doivent composer avec cette double réalité d'être réfugiés, de personnes qui sont à la fois réfugiées et en situation de handicap. Aujourd'hui, on s'adresse à Tommy Théberge, qui est conseiller municipal de la ville de Longueuil, dans le district des Explorateurs. Et ce qui est heureux, c'est qu'il va nous parler, à tous les mois à peu près, de sa fonction et du travail municipal, si je peux dire. Bonjour, Tommy.
Bonjour, bonjour.
Alors, je suis content que vous soyez là de nouveau. Je vous demanderai la grande question. Est-ce que vous avez déjà imaginé faire... d'être conseiller municipal un jour?
Bien, en fait, la politique m'a toujours intéressé.
Ah oui?
J'ai fait des études en... Moi, je suis historien de formation. J'ai fait une maîtrise aussi en relations internationales. Puis la question de l'actualité politique m'a toujours intéressé. Maintenant, pourquoi la politique municipale? Bien, la politique municipale, parce que c'est une politique de proximité.
Oui.
On est avec nos citoyens, on travaille pour eux autres. Pas plus tard que ce matin, j'étais à la rencontre de citoyens. J'ai rencontré deux citoyens qui m'expliquaient leurs problématiques, comment on peut les aider. Donc, moi, ce que j'aime, c'est la proximité, aider les gens, puis donner de la vie dans notre quartier, dans notre ville.
Donc, c'est d'avoir un impact concret aussi sur votre ville. C'est ça l'intérêt d'être conseiller municipal.
Exactement, concret puis quotidien. La vie municipale, c'est notre gouvernement le plus près de nous.
Mm-hmm.
Ça va de l'eau qu'on boit, le déneigement qu'on a entendu parler tout l'hiver.
Qu'on n'a pas ou qui est difficile.
Qu'on n'a pas ou qu'on aimerait voir améliorer, tout ça, les policiers, tout ça.
Ouais.
Donc, c'est très, très présent dans notre quotidien puis mm-hmm. c'est important de s'y attarder.
Les questions d'environnement et d'accessibilité universelle aussi sont de plus en plus présentes parce que c'est là où ça se décide pratiquement.
Tout à fait. Puis dans une ville comme Longueuil, la mobilité des citoyens, de tous les citoyens, c'est important. Donc, que l'accessibilité soit faite à différents niveaux, que ce soit dans le transport, mais aussi dans l'accès à l'information, dans l'accès aux installations, dans l'accès aux activités. Donc, c'est très important que tous nos citoyens puissent y avoir accès.
Bien sûr. On va faire un petit retour en arrière. Il y avait des élections il n'y a pas longtemps. Il y en a aux 4 ans. Ça a été votre cas. Comment on fait pour devenir candidat?
Candidat, ben moi, je vous dirais d'abord, c'est faut savoir un petit peu dans quoi qu'on s'engage.
Oui.
C'est une campagne électorale, c'est très long, c'est très dur aussi, dans une ville d'envergure comme Longueuil. La première étape, ben d'abord, c'est de rencontrer
son
chef.
C'est la quatrième en population, cinquième?
Cinquième en population. Puis je vous dirais, la première étape,
au Québec,
c'est... Au Québec, tout à fait, tout à fait. Puis, donc, on rencontre son chef, on regarde le programme. Est-ce que les idées conviennent? Est-ce que ça rejoint nos valeurs? Une fois que cette étape-là est franchie, ben là, on se met au travail.
J'ai une question polémique.
Oui.
À quel point on doit être d'accord avec les valeurs de son parti au municipal? Parce que on parle souvent de... C'est pas très politique, on a l'impression. C'est pas trop à gauche, pas trop à droite. On a l'impression que c'est souvent au centre. À quel point il faut être d'accord avec son parti pour faire du municipal?
Ben, moi, je suis quelqu'un qui s'engage dans la mesure où j'y crois. Puis, au municipal, c'est sûr qu'on touche à des questions du quotidien, c'est une politique de proximité. Donc, évidemment, par exemple, le développement économique, les valeurs qui ont autour de l'environnement, les valeurs qui ont autour de la mobilité des citoyens. Donc, tout ça, la programmation, ce qui est offert dans le programme doit vraiment répondre à nos valeurs, parce que sinon, moi, je vous dirais, ben, vous n'êtes pas dans le bon parti, regardez autre chose.
Regardez ailleurs.
C'est ça.
Bon, enfin, regardez ailleurs. Je suis désolé à nos amis aveugles qui écoutent, là, mais donc, ayez embrassé une autre vision, on va dire ça comme ça.
Tout à fait. Ah oui, oui.
Et donc, dans le pratico-pratique, qu'est-ce que ça prend pour faire une bonne campagne, puis qu'on soit en situation de handicap ou pas, je dirais, ou dans les deux cas?
La première étape, évidemment, ça prend une bonne équipe. Ça prend des gens qui nous entourent, qui nous supportent. Ça prend évidemment le soutien de la famille. Donc ça, c'est vraiment important, parce qu'une campagne électorale, c'est au quotidien. C'est à tous les jours. C'est 6 mois de campagne. Déjà en mai, la campagne est bien amorcée pour moi. On a fait 6 mois de campagne. À tous les jours sur le terrain, le porte-à-porte, comme on dit. Donc, aller à la rencontre des citoyens, ça reste encore le meilleur moyen. On va frapper à la porte, on a une discussion avec le citoyen.
Quand on ne présente pas de difficulté à la mobilité ou qu'on n'a pas de déficience motrice, là, ça fonctionne le porte-à-porte dans ces conditions-là.
Effectivement. Il y a d'autres stratégies, bien sûr, aussi. Évidemment, on peut rejoindre les citoyens par téléphone. Maintenant, on peut les rejoindre par Facebook. Moi, j'avais de nombreux citoyens auxquels je disais, ben, le meilleur moyen de suivre ma campagne, ajoutez-moi dans Facebook, écrivez-moi, appelez-moi. Donc, d'être disponible, d'être à l'écoute, ça, c'est des moyens. Puis, bien évidemment, le téléphone. Quoique, les élections prochaines, il y a un enjeu, puisque maintenant, les gens ont de plus en plus de cellulaires et de moins de lignes fixes.
Oui, puis même, parfois, on parle sur les vieilles listes, il y a du 30 % de gens seulement à cette hauteur-là qui disposent d'un téléphone. Donc, ça veut dire qu'il faut les rejoindre autrement. Puis là, on contrôle les données de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est une autre émission, je pense.
Et c'est très difficile, une élection municipale, dans le sens où si vous faites votre porte-à-porte, évidemment, la personne n'est pas toujours à la maison à nous attendre. Donc, je vous dirais, une porte sur 5 va s'ouvrir.
OK.
Donc, vous
ouvrez des tonnes de portes. Merci, Tommy Théberge, conseiller municipal de la ville de Longueuil.
Merci.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Racette.
Au diable, demandez son dû. Mieux vaut tuer le diable que si le diable nous tue. Grain de sable que nous sommes. On t'a dit que le temps guérit tout et qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on nous manger.
suis né tout nu. Courte paille que nous sommes. On t'a dit que le temps guérit tout et qu'on a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite, et que l'avenir est devant nous, mais qu'on a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite.
De la semaine. Est-ce que les personnes réfugiées en situation de handicap reçoivent suffisamment d'aide pour assurer leur inclusion au Québec? Que pouvons-nous faire pour les soutenir?
N'oubliez pas de répondre, vous pouvez le faire sur canalm.vusezvoix.com, sur les réseaux sociaux. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il est possible d'intervenir toute la semaine de la diffusion de cette émission. Seulement, c'est heureux d'accueillir vos commentaires, vos expériences, mais il n'y a rien de mieux que d'alimenter convenablement le sujet. Et c'est pour ça qu'on a à table deux intervenants majeurs. Je suis désolé, je ne vais pas vous flatter en commençant, mais je suis obligé de le faire. Deux intervenants majeurs qui accueillent, qui connaissent la problématique de l'accueil des réfugiés. Alors, d'abord avec nous, Véronique Harvey, travailleuse sociale et psychothérapeute spécialisée en intervention auprès des personnes réfugiées au RIVO. Juste le dire une bonne fois, RIVO, c'est le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée. Bonjour, Madame Harvey.
Bonjour.
Merci d'être là. Et aussi Sylvain Thibault, coordonnateur au volet parrainage de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Son petit nom, c'est le TRCI, qu'on reconnaît souvent.
TCRI.
Ah, ben oui, voyons. j'ai affirmé ma dyslexie. Enfin bref, TCRI. Voilà, merci à vous aussi d'être avec nous. C'est gentil. Donc, j'oserais commencer d'abord avec vous, Véronique. Harvey, qui avait une expérience très concrète de cette expérience, de l'accueil, puis je dirais aussi de l'exil, de tout ce qui vient. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que vous n'êtes pas dans un organisme très ancien, là. C'est assez jeune, le RIVO.
Fait, non, pas vraiment. En fait, ça fait plus de 25 ans qu'on existe.
OK, d'accord. Mais récemment, vous avez eu un financement dans les dernières années qui était substantiel,
ben,
non?
Non, en fait, on est encore en train de récupérer des coupures de 2012.
Bon, ça va super bien. OK, donc... Vous êtes nécessaire, vous êtes là depuis 20 ans. Je m'en excuse pour ces imprécisions dès le départ, mais qu'est-ce que vous faites concrètement?
Bon, alors, au RIVO, donc, comme vous l'aviez très bien dit tout à l'heure, on est un réseau d'intervenants, mm-hmm. principalement composé de psychothérapeutes, de psychologues. On a quelques massothérapeutes. Et en fait, nous, on offre des services de soutien psychologique et de psychothérapie mm-hmm. Au niveau du trauma. Et des enjeux d'adaptation, des stress d'adaptation reliés au parcours migratoire et à l'adaptation une fois que les personnes sont arrivées dans le pays d'accueil. Mmh. Et nous, vraiment, ce qu'on traite, c'est la violence organisée. Ce qu'on entend par violence organisée, c'est une violence qu'il faut relier à l'État. Soit que l'État a délibérément orchestré, planifié un acte de violence envers un individu ou un groupe, mmh. ou a négligé pour une raison ou une autre.
Même de manière indirecte.
Hein, même de manière indirecte, n'a pas su protéger les victimes. Mmh. Puis ça, nous, on élargit cette définition-là au RIVO à de la violence sociale, comme des cas de violence envers les femmes, des profils de femmes qui ont vécu de l'inceste, des viols, des mariages forcés, de l'excision, mais aussi les personnes qui ont été persécutées et torturées sur la base de leur orientation ou leur identité sexuelle, leur opinion politique ou leur affiliation religieuse ou ethnique.
Tout ce qu'on essaie de protéger ethnique. Avec les chartes ici, mais qui jouit d'une protection assez variable de par le globe.
C'est ça. C'est que nous, on se concentre sur les personnes issues de pays où il n'y a pas de protection pour cette forme de violence sociale.
Ouais. Est-ce qu'on a peur d'utiliser violence systémique? Est-ce que c'est la même chose?
Bien, c'est-à-dire que la violence systémique, c'est une violence qui vient des systèmes. Donc, c'est plus au niveau de l'entourage de la personne. Donc, on va parler de violence familiale, violence de la communauté, une violence plutôt sociale, mais qui n'est pas nécessairement à caractère politique.
OK. Donc, quand c'est organisé, ça vient vraiment d'action ou d'inaction de l'État.
Oui, exactement.
Okay.
Mais c'est de la violence humaine. Oui. Dans tous les cas, on traite un trauma qui est fait de la part d'un humain envers un autre. Mm-hmm. Et il y a le lien de confiance en l'humain est souvent brisé ou endommagé chez les personnes, chez les survivants qui l'ont vécu. Donc, c'est ça qu'on essaie de réparer. On accompagne les personnes dans leur reconstruction de soi parce que l'identité en a pris un coup dans le processus de déshumanisation. Parce que c'est l'intention du bourreau dans des cas de violence.
Oui, c'est d'humilier, c'est d'anéantir.
Exactement, la personnalité de la personne, toute sa valeur et même son droit de vivre. Mmh. Et ces personnes-là, souvent, se sont appropriées cette identité négative et on les aide à retrouver, à reconnecter avec leur identité positive pour qu'ils puissent se réactiver et pouvoir finalement s'épanouir et s'intégrer dans la société d'accueil.
Mais vous c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous vivez aussi comme thérapeute. Là. Vous voyez tout ce processus où les gens arrivent brisés et ils doivent recomposer à partir de morceaux compliqués parce qu'ils ne savent pas s'ils appartiennent à leur ancien pays ou à celui d'aujourd'hui. C'est ça, vous ne trouvez pas ça difficile quand on présente peut-être les réfugiés comme des gens là, qui viennent profiter d'un système alors que c'est souvent des gens qui sont dans l'état que vous dépeignez?
Mais premièrement, nous, on ne voit pas tous les réfugiés. Ce ne sont pas tous les réfugiés et les demandeurs d'asile qui ont besoin de psychothérapie. Mais nous, on voit vraiment les personnes les plus vulnérables. Donc souvent, qui ont des personnes qui ont vécu des traumas multiples. Donc oui, effectivement, ils sont brisés, c'est difficile à voir. C'est difficile de voir quand il y a un discours négatif envers ces personnes-là parce que c'est sûr que nous, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont vraiment vécu de très grandes injustices et qui méritent en fait notre soutien. Donc, et ils sont affectés par le discours sociopolitique.
Évidemment.
Ils sont très sensibles à ça, en fait, parce que, et ce qu'on fait en thérapie, une des choses qu'on fait, c'est qu'on essaie de rétablir un sentiment de sécurité. Donc, c'est sûr que quand il y a un discours négatif envers ces gens-là, eh bien, ça porte atteinte à leur sentiment de sécurité. Et ça peut être assez intimidant pour eux. Alors, en même temps qu'on leur demande de s'intégrer, si on projette un regard négatif sur eux qui risque d'être intimidant, ben on ne facilite pas leur élan dans leur prise de place, dans leur façon de prendre leur place dans la société et de jouer un rôle actif. Ils vont avoir plus tendance peut-être à se rétracter.
Oui, bien sûr, à s'effacer un peu. Puis, donc, ces personnes-là, est-ce que ça compose une grande partie des personnes réfugiées, les gens qui sont brisés au point que vous le dépeignez?
Il n'y a pas vraiment de statistiques là-dessus. Ouais. En fait, ça serait... Moi, ouais, j'aimerais bien en avoir.
Un vrai statut, on va se le dire, là, juridiquement, ils sont souvent dans un flou. Là. On ne sait pas. Ils peuvent être sans papier, ils peuvent être réfugiés reçus, réfugiés en voie d'être reçus. Il y a même, en plus, quand on arrive au pays, une période de flou. Là.
Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, nous, on voit les demandeurs d'asile, donc des personnes qui n'ont pas encore de statut, donc qui vont devoir prouver en cours d'immigration qu'ils ont bien vécu ce qu'ils ont vécu. Mm-hmm. Alors ça, c'est un processus extrêmement stressant. On aide à la personne à être capable de retrouver une certaine force pour pouvoir témoigner devant un commissaire, parce que c'est très dur, c'est des événements douloureux à raconter. Il y en a même qui en ont oublié des parties. C'est comme un mécanisme de protection pour ne pas être envahi par la réaction émotionnelle.
N'importe quelle réaction, en fait, n'importe quelle situation difficile dans notre vie, on réagirait comme ça, hein, d'essayer d'oublier. Mais imaginons quand on a essayé d'intenter contre notre vie, quand on a décimé de, des membres de notre famille ou qu'on a seulement refusé qu'on existe au nom d'une ethnie ou d'une culture, etc.
À le prouver, c'est
ouais,
pas facile.
Il faut tout restituer ça pour que le commissaire entende puis qu'il nous donne le statut de réfugié, c'est ça?
Oui, exactement. Mmh. Okay. Donc, c'est ça. Donc, les gens peuvent être soit acceptés suite au jugement ou être refusés et déportés dans leur pays d'origine. Donc, c'est aussi leur vie et leur sécurité qui est en jeu ici. Donc, c'est un stress énorme. Mmh. Mais on voit aussi des gens, des personnes qui sont réfugiés, qui sont arrivés ici avec un statut d'immigration, qui ont été parrainés par l'État, qui arrivent avec un statut et... une fois qu'ils sont posés, après souvent après 8 mois, même parfois après plusieurs années, et tout d'un coup, ben, le trauma remonte à la surface.
Ouais.
Une fois qu'ils sont posés, une fois qu'ils se sont trouvés un logement, que les enfants sont inscrits à l'école, etc., ils commencent à avoir un petit peu plus de temps pour penser. Et là, le trauma remonte à la surface. Et c'est là qu'ils sont référés par des médecins, des avocats, par des professionnels qui sont...
À votre réseau.
À notre réseau, notamment. Exactement.
Bon, je me retourne aussi vers Sylvain Thibault, qui est peut-être moins dans l'intervention aussi directe maintenant. Vous l'avez déjà été, ceci
ouais,
dit.
Tout à fait.
Vous avez vécu non seulement dans une famille qui a accueilli avec beaucoup de générosité des personnes réfugiées. Ça vous a formé, en tout cas, hein? C'est ce qu'on en
dit. En fait, je pense que non seulement ça m'a formé, mais ça a complètement changé ou bouleversé ma vie, puis non seulement la mienne, mais celle de mes deux frères aussi, parce que c'était une affaire familiale. Et c'était à l'époque des Boat People, donc dans les années 80, qu'on a accueilli ces gens-là. Il y était à cette époque-là 5 personnes. En fait, c'était 2 familles. Puis aujourd'hui, ben, avec les enfants et les petits-enfants, c'est rendu quand même 22 personnes.
Donc, ah ouais. Donc, c'est une immense famille.
Oui, c'est une immense famille, c'est ça, oui.
Ouais.
Et en fait, ça m'amène à parler peut-être de la TCRI qui a été créée justement à cette époque-là, à l'époque de l'arrivée là, des Boat People, des Indochinois, là, ce qu'on appelait les Indochinois, Laos, Cambodge et Vietnam, donc en 79. Et donc, c'est un regroupement dont le rivaux a évidemment fait partie.
Voilà, donc il faut resituer, je vous ai parlé de votre expérience personnelle, j'oserais dire d'accueil, mais depuis quand déjà vous êtes coordonnateur de la table de concertation?
Depuis
2015.
Donc 2015,
quelques années,
ouais.
Mais vous êtes coordonnateur de cette table qui regroupe combien d'organismes déjà?
En fait, c'est 142. Moi, je suis coordonnateur du volet parrainage des réfugiés.
Parfait, oui.
Donc, je m'occupe plutôt du parrainage des réfugiés que de l'ensemble là, des services qui sont offerts là, aux personnes réfugiées parrainées. Hein.
Donc, on a entendu cette histoire d'accueil, j'oserais dire, puis ce mouvement migratoire chez les personnes réfugiées. Dans quelques instants, après cet instant musical, on va s'adresser avec... on va parler avec M. Thibault pour comprendre de manière un peu plus macro comment ça se passe, pas juste à l'échelle individuelle, mais comme groupe, les réfugiés, qui ils sont, comment les aider.
Secrète, je m'y mêle, elle s'entremêle. Jamais ne sera un mot de passe. Derrière les masques où je suis inconnu, parmi les plus connus. Jusqu'au bout de moi, partager son temps entre plusieurs. Jusqu'au lendemain, retenir ce mot.
faire place à ce je voyage. Ah, je voyage.
Question de la semaine. Est-ce que les personnes réfugiées en situation de handicap reçoivent suffisamment d'aide pour assurer leur inclusion au Québec? Que pouvons-nous faire pour les soutenir?
Continuez de répondre à la question et vous pouvez entendre ces deux intervenants essentiels pour poursuivre la conversation. Donc, on s'est adressé beaucoup à Véronique Harvey, qui est travailleuse sociale et psychothérapeute au RIVO, ce réseau important là, qui regroupe des intervenants, qui accueille les personnes qui ont vécu la violence organisée. Et on est aussi avec Sylvain Thibault, qui a non seulement une histoire personnelle avec l'accueil des réfugiés, mais qui est actuellement coordonnateur du volet parrainage de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Monsieur Thibault, vous me disiez qu'il y avait énormément d'organismes. Est-ce que il y a une augmentation de ces organismes-là? Comment ça va? Est-ce qu'ils répondent à la demande? C'est quoi le portrait global des organismes avec lesquels vous travaillez?
Bien, en fait, les 142 organismes avec lesquels nous, on travaille à la TCRI, ou qu'on représente plutôt à la TCRI, sont répartis à travers l'ensemble du territoire du Québec, parce que la TCRI regroupe là, l'ensemble du territoire du Québec. Et ces organismes-là, ils sont multiples. Mmh. Ils offrent des services, évidemment, de première ligne, comme par exemple l'accueil. On les appelle les organismes d'aide à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes. Mmh. Donc, ça va, par exemple, de l'aide à la recherche de logement jusqu'à l'aide à la recherche d'un emploi.
Ouais. Et le logement, c'est déterminant, c'est quand même.
Oui.
Le tout premier besoin qu'on essaie de combler, après peut-être un peu d'aide de la Croix-Rouge pour vêtements ou autres. Mais donc, le logement, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment.
Ben, en fait, le logement à Montréal commence à poser un problème.
Oui.
Parce qu'on l'a vu là, l'été passé, puis ça a continué, mais dans une moindre mesure, l'arrivée des demandeurs d'asile au chemin Roxham. Mm. Donc, c'est sûr que ça vient mettre une pression sur le parc locatif à Montréal. Et ce qu'on a comme écho des organismes qui aident les demandeurs d'asile à se trouver un logement à Montréal, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver un logement abordable à Montréal.
Bien sûr. Et il y a même eu toutes sortes de réactions. Hein. On sait, les groupes les plus xénophobes, mm-hmm. ils sont allés de bon, on a déjà passé de logement pour nos pauvres.
Ouais, 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 ouais,
mais ouais. Il reste que ces gens-là ont des besoins criants et fondamentaux. Donc, est-ce que les organismes arrivent à faire des mariages heureux entre ces personnes-là, des nouveaux endroits pour vivre? Est-ce que on répond à la demande et dans quelle mesure?
Moi, je peux vous dire qu'il y a effectivement, là, il y a des groupes qui s'opposent à l'arrivée des demandeurs d'asile, et même des réfugiés ou même des immigrants, mais je peux vous dire qu'en termes de nombre, les personnes qui sont heureuses de les accueillir est beaucoup plus nombreux que ces personnes-là.
Ouais.
Donc, évidemment que, nous, on mise davantage sur le potentiel des personnes qui veulent aider, là. Si les gens ne veulent pas aider, mais qu'ils se tassent et qu'ils laissent la place à ceux qui veulent aider.
Là, il y en a beaucoup, hein? Il y a eu plusieurs, quand même, manifestations, que ce soit les macarons, les tucs, il y avait des milliers de gens qui disaient vouloir être accueillants. Est-ce que ça s'est traduit par des personnes qui accueillent, qui parrainent? Ou,
moi, M. Racine, ça fait un petit bout de temps que je travaille avec les demandeurs d'asile et les réfugiés, puis j'avais jamais vu un mouvement de générosité de cette ampleur-là.
Ouais.
Moi, je recevais, là, en fait, mon poste a été créé à cette époque-là, en 2015, à l'époque, on commençait à parler des 25 000 réfugiés syriens là, que le Canada allait accueillir. Mm-hmm. Et j'ai reçu, moi, ma boîte courriel, je me souviens, lundi matin, j'étais revenu au boulot. J'avais quitté, évidemment, le vendredi, puis il y avait 2000 nouveaux courriels dans ma boîte courriel.
C'est rare qu'on est content à ce point-là, le lundi, d'avoir 2000 courriels.
Oui, oui. Puis c'était des beaux courriels d'encouragement. Puis je me souviens d'une dame, puis j'aimerais tellement ça la retrouver, cette dame-là, mais elle, c'est une coiffeuse. Et elle offrait des coupes gratuites aux personnes réfugiées parce qu'elle disait, ben ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de coupe de cheveux. Mmh. Alors moi, c'est ce que je peux offrir. Il y a eu les 25 000 tucs, les 25 000 macarons. Il y a un groupe de vétérinaires qui s'était mobilisé pour aider
les animaux de
compagnie. Les petits animaux. Moi, évidemment que les réfugiés n'arrivent pas avec leur petit chat, leur petit chien.
Non, non, bien sûr, mais ça peut être utile quand même.
C'était, moi, j'étais en extase devant ce mouvement-là de population face à l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et je pense que ça se poursuit, peut-être dans une moindre mesure, mais les gens ont été sensibilisés à cette cause-là. Puis, bon, vous avez parlé tantôt des besoins des personnes itinérantes. Mm-hmm. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement comparer les différents besoins. Je pense qu'un être humain, c'est un être humain. Mm-hmm. On ne peut pas nécessairement laisser un demandeur d'asile dormir l'hiver dehors, bien pas plus qu'on doit le faire pour une personne née ici. Mm-hmm.
Et donc, vous parliez des différentes ressources parce que les groupes que vous regroupez, ça commence à faire lourd en groupe, là, mais bon, peu importe, sont un peu partout sur cette chaîne-là. Donc, il y a des gens qui aident au logement, des gens qui aident à l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres besoins qui sont répondus par les groupes de la table?
Bien, je pense que chaque organisme répond à un besoin. Bon, on a l'exemple de Rivo, là, qui est primordial, Rivo, dans notre milieu, puis que c'est un organisme qu'on apprécie énormément. Et moi, j'ai travaillé longtemps avec les demandeurs d'asile et j'ai référé souvent des gens chez Rivo et je voyais des sourires qui apparaissaient au fil des rencontres avec Rivo, une lumière dans les yeux qui n'était plus là parce que les gens arrivent ici, hein, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fuit son pays. Mmh. Et d'autant plus qu'il y a comme une injustice. Moi, je l'ai souvent entendu celle-là. C'est moi qui est victime de ta persécution, puis c'est moi qui dois me taper là, le déracinement. Mmh. C'est lourd, c'est gros, c'est un déracinement là, d'un pays. Là, c'est pas rien. Là.
Mais peu importe qu'on ait quitté son pays difficilement, l'exil est difficile. Ouais, alors imaginons quand il est multiplié peut-être par
tout
ces éléments traumatisants.
Et Victor Hugo, qui était lui-même réfugié, a dit que l'exil était une longue nuit d'insomnie. Mmh. Ça dit beaucoup.
Oui, ouais, ça traverse les siècles, en tout cas. On parle de ressources, évidemment. Après les logements, c'est peut-être le nerf de la guerre. Un peu plus tôt, on s'était dit, en fait, dans ma méprise, que votre organisme avait vécu des coupures. Je parle bien sûr du Rivo et je me retourne vers Véronique Harvey. Il y a eu un retour de financement, mais ce n'est pas nécessairement si important que ça. En fait, est-ce que vous arrivez à répondre à la demande, surtout chez ces personnes qui vivent la détresse psychologique de l'exil comme ça?
Mais c'est-à-dire que le programme fédéral de santé intérimaire, qui est le programme de soins de santé qui couvre les besoins de services de santé pour les demandeurs d'asile, a été coupé en 2012 et a été rétabli en 2016 par le gouvernement fédéral. C'est quand même très apprécié et ça nous aide.
Oui.
Mais
son retour aide beaucoup.
Aide beaucoup, oui, exactement. Ouais. Le problème, c'est que ce ne sont pas toutes les personnes qu'on voit en thérapie qui sont couvertes par ce programme de soins de santé intérimaires. Mmh. Donc, les gens qui sont ici depuis plusieurs années, les gens qui... donc, les frais de thérapie ou d'opération pour ce service qu'on offre gratuitement... Hein,
oui, c'est important de le dire.
Puis en 25 ans, on a offert presque 40 000 d'heures de thérapie gratuite. Là, ouais. Alors... Donc, oui, on répond à la demande lorsqu'on a le financement nécessaire, mais l'enjeu qu'on a depuis quelques années, c'est que le PFSI ne couvre pas tout. Alors, pour les personnes qui ne sont pas couvertes par le PFSI, on a besoin de soutien, de financement. En 2016, on a vu 134 personnes. En 2017, on est monté à 262, donc c'est le double. Et cette année, on est au mois de mars et on a déjà 270 cas de personnes en suivi, ce qui est plus que l'ensemble de l'année 2017. Donc, on s'enligne, si la tendance se poursuit, pour voir environ 400 personnes au cours de l'année 2018.
C'est immense. Mais est-ce qu'on arrive à chiffrer le nombre de personnes qui auraient besoin de ce type de soutien-là? Parce qu'on a parlé de l'installation, etc., mais le soutien psychologique est important. Est-ce qu'on sait combien de gens réfugiés auraient besoin de ça pour bien réussir l'inclusion qui viendra?
Comme Véronique a dit tantôt, c'est pas nécessairement tous les réfugiés qui ont besoin de ce type d'aide-là. Par contre, les réfugiés qui en ont besoin, puis Véronique le dit aussi, tantôt, ça peut être dans le premier mois après l'arrivée, puis ça peut être dans la première année ou 10 ans après. Mm-hmm. Les traumas ressortent quand ils sont prêts, j'imagine, à ressortir. Là. C'est Véronique qui est l'experte là, dans ce niveau-là. Mais on doit soutenir. C'est un organisme qu'on doit soutenir, le Rivo, évidemment.
Donc, on va évidemment mettre les liens sur notre page. Vous continuez de répondre à la question à la maison. Et je dois remercier ces deux intervenants nécessaires en première ligne, Véronique Harvey, travailleuse sociale et psychothérapeute spécialisée en intervention auprès des personnes réfugiées au Rivo. Merci, Madame Harvey.
Merci.
Et aussi Sylvain Thibault qui œuvre avec une bonne bande d'organismes nécessaires partout au Québec, à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes. Merci, Monsieur le coordonnateur, merci Sylvain Thibault.
Ça m'a fait plaisir.
Écoutez Accès libre.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo van. Sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais expliquer de ma vie, de ma socialité, de ma situation. Je voulais que c'est mon nom, je m'avais le caravan de la Chine, je suis le Mauritania.
Question de la semaine. Est-ce que les personnes réfugiées en situation de handicap reçoivent suffisamment d'aide pour assurer leur inclusion au Québec? Que pouvons-nous faire pour les soutenir?
À chaque semaine, on vous présente un essai, un roman à caractère historique ou disons social. Le livre présenté est disponible en version audio grâce à Vues et Voix et rappelons que si vous présentez une déficience visuelle ou encore si vous avez des difficultés liées à l'apprentissage, vous pouvez profiter de ces versions adaptées. Je vous invite à entendre le quatrième de couverture du titre « Les sans-papiers » de Lawrence Hill, publié d'abord chez Pleine Lune, produit par Vues et Voix.
À la suite de l'immense succès d'Aminata, Lawrence Hill revient en force avec l'histoire captivante d'un coureur clandestin, Keita Ali, le sans-papier. Menacé de mort aux Antoroland, Keita se réfugie à Libertude, pays prospère où des politiciens mènent une chasse sans merci aux sans-papiers. Toujours aux aguets, il doit se méfier de tous ceux qui croisent sa route. Mais il y a pire encore. Sa famille est en danger et il est le seul à pouvoir la sauver. Il lui faut gagner des courses, gagner de l'argent, vite. Il court pour elle, il court pour sa survie, il court. Mené à vive allure, le sans-papier nous plonge dans un suspense palpitant, construit sur un entrelacement de voix et de destins, avec en toile de fond le portrait d'une société en crise, minée par la corruption et divisée sur des questions d'immigration et d'exclusion. Lawrence Hill dépeint avec acuité les conditions de vie de tous les Keïtas de ce monde, de tous ces sans-papiers, ces oubliés qui vivent parmi nous. Paru en anglais sous le titre « The Illegal », le roman a remporté le prix Canada Reads 2016, décerné par la CBC. Le National Post et le Globe and Mail l'ont choisi parmi les meilleurs livres de l'année en 2015. Lawrence Hill est l'auteur de plusieurs romans, dont les best-sellers Aminata et le sans-papier, traduction de The Illegal. Identité, appartenance et exclusion sont des sujets au cœur de son univers romanesque.
Le sans-papier de l'auteur Lawrence Hill est rendu disponible à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, par le truchement de son service québécois du livre adapté SQLA. Entendez maintenant le prologue.
Libertude 2018. Retourne dans ton pays. Ces mots viennent du coureur à la gauche de Keïta. Un blanc, sûrement de Libertude, cheveux bruns flasques, ballottant au rythme de ses foulées, bras trop élevés, allure désordonnée. La course est la danse la plus gracieuse au monde. Keïta a été entraîné à voir ses jambes comme des roues. Il a appris à toucher le sol sans faire de bruit, à transférer son poids sur la plante des pieds, à rouler les orteils et à passer plus de temps en suspension qu'au contact du sol. N'importe qui peut courir, mais rares sont ceux qui le font avec élégance. Le rival de Keïta court comme sur des pneus à plat. Keïta ne souffle mot, fait semblant de ne pas comprendre l'anglais ni de le parler. Se contente de courir. Derrière son épaule, le coureur répète « Retourne dans ton foutu pays !» Il est grossier. Il mérite de souffrir. Keïta allonge le pas. Tôt ou tard, le rustre commencera à avoir mal. Tout le jeu consiste à infliger à son adversaire plus de douleur qu'on en ressent. Keïta, étranger sur un territoire étranger, dont la seule faute est d'exister là où sa présence est illégale, utilisera donc la vitesse pour briser cet homme. Keïta a examiné le tracé du marathon de Butters Bay. C'est un parcours aller-retour, 21,1 km vers l'est, le long de l'escarpement Chilting, virage à 180 degrés, puis 21,1 km vers la ligne d'arrivée. Quelques kilomètres après le point de demi-tour, les concurrents graviront la seule côte du marathon. Après une courbe, la route devient abrupte et grimpe sur 2 kilomètres. Portion difficile, sans aucun doute. Mais que représente cette ascension de 2 kilomètres au niveau de la mer à Libertude quand on a goûté à l'altitude dans les montagnes rouges du Zantoroland? Le peloton avance sur une piste sinueuse bordée de pins, les plus grands que Keïta ait jamais vus. Un siècle auparavant, quelqu'un avait décidé de construire l'avenue arborée la plus paisible au monde. De chaque côté de Keïta, au plus haut qu'il peut voir, les arbres épousent les courbes de la route. Ils sont devenus si gros et si épais qu'ils ont créé leur propre microclimat. La journée est chaude, mais leur ombre majestueuse abaisse la température de 5 degrés. Participer à ce marathon, c'est comme nager dans un lac chez lui, aux Zantoroland, et tomber soudainement sur un courant froid.
J'en ai plein mon chasse de l'hiver, de sa mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon chasse de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. j'en ai plein mon jazz. J'ai bâti ma vie comme on construit des maisons. La cuisine est partie et j'ai botché le salon. Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. La vie va me donner un an, mais je parie que Pikachu serait pas content de savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon. Oh shit. Et j'ai des remords d'en face, parce que aimer ça me fait faire des grimaces comme celles qu'on fait quand on bouffe un citron. Mais je fais pas exprès, je suis peut-être juste un peu con. Ça me prendrait plus de temps et encore plus de rire. Et peut-être bien qu'à 100 ans, je pourrais encore me servir mon café crème ou bien du lait. Et puis je t'aime et s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin, ou bien au moins en attendant le refrain. J'en ai plein mon jazz de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon jazz de la guerre, puis de toutes les autres affaires qu'un artiste doit de dénoncer quand il va chercher son trophée. J'en ai plein mon jazz. Monsieur, pouvez-vous me dire, sans trop être furieux, si j'ai le droit de partir de votre cour d'économie qui me remplit le coco d'ennui? Car je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le PIB. Je suis sûr qu'il pourrait vous parler du fait que votre réalité est frette. La vie ne se résume pas qu'à l'argent, il y a l'amour et puis le temps. Ah, oh, il y a l'amour et puis le temps. Ah, 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 il y a l'amour et puis le temps. Ah, même si trop souvent. J'en ai plein mon casse de l'hiver, de sa mère, des nids de poules et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein mon casse de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon casse.
Question de la semaine. Est-ce que les personnes réfugiées en situation de handicap reçoivent suffisamment d'aide pour assurer leur inclusion au Québec? Que pouvons-nous faire pour les soutenir?
En début d'émission, peut-être je vous ai, taquiné, laissé languir, puisque j'ai parlé de ce Sébastien Lepage qui en est à son quatrième spectacle d'humour. Il y a des bonnes raisons pour le faire, pour les faire, ces shows d'humour-là, mais je vous laisse découvrir pourquoi à l'instant. Bonjour Sébastien Lepage.
Bonjour.
Très content que vous soyez avec nous. Alors, pour préciser, rappelons d'abord que vous êtes représentant pour Kinova Robotics, donc vous connaissez bien le monde des bras intelligents, on va dire ça comme ça. Oui. Et en plus, vous êtes grand amateur d'humour et vous avez eu toutes sortes de besoins, comme bien du monde en situation de handicap. Mmh. Vous avez décidé de produire des spectacles d'humour.
Oui. Et que mon service en 2014.
Votre CLSC en 2014?
Que j'étais avec le CHSLD.
Il m'avait mentionné que j'étais un cas pour CHSLD.
Oui, et ça arrive souvent, ça m'en maudit. Mais vous avez gardé le sourire. Donc, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là?
Moi, je me suis tourné le bas.
Ouais.
J'ai décidé d'organiser un galop d'humour.
Moi, je me suis reviré de bord, puis j'ai décidé d'organiser un show d'humour.
Un peu comme Mike Ward.
Un peu comme Mike Ward? Vous avez senti la provocation? Oui.
Le fait pour Alain Godet.
Un peu comme Mike Ward, le fait pour Alain Godet.
Ah, pour Alain Godet, d'accord. Alors, vous en êtes à la 4e édition, c'est ça?
Elle est déjà passée, oui. La 4e édition vient de passer.
Ça vient d'être fait. Donc, voilà. Comment ça s'est passé? Il y avait beaucoup de monde?
567
personnes.
Ah, c'est incroyable. Ça vous a permis d'amasser pas pire d'argent?
11 800 $.
Bravo. Et j'imagine qu'il y avait toutes sortes d'humoristes qui sont venus en renfort pour, pour rendre ce show-là. On l'appelle d'ailleurs le Seb Show.
Ouais.
Et qui y avait lors de ces derniers spectacles?
Jean-Thomas Jobin.
Jean-Thomas Jobin, oui.
Réal Bélan. Il y avait Frankie aussi qui est venu cette année.
OK.
Sam Breton.
Mm-hmm. Donc, il y avait une belle brochette d'humoristes. Ça vous a permis d'amasser des fonds. Et cet argent-là que vous avez amassé, vous l'investissez dans quoi exactement?
Dans mon maintien à domicile. J'ai besoin de plus d'heures service que le cadre de référence.
Ah oui. On vous attribuerait combien d'heures de service en principe?
Un 44 heures.
Et c'est ça. Et donc, comme c'est au-delà de 44 heures, on dit, vous devez aller en CHSLD.
Oui.
C'est impressionnant. Juste rappeler aux gens qui nous écoutent qu'en moyenne, ça coûte 73 000 $ une place en CHSLD. Ouais. Pour 44 heures à la maison, là, vous n'avez pas besoin de 73 000. Vous avez besoin de moins que ça.
J'ai environ besoin de 18 000 de plus.
OK.
Par année.
Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, parce que je veux garder le beau côté de la chose, là, vous avez travaillé fort, ça a rallié une communauté, c'est magnifique, mais je veux quand même rappeler que vous avez porté plainte au protecteur du citoyen avec une réponse favorable de sa part.
Quand je restais à Saint-Constant, j'avais reçu mes heures, la totalité de ces heures.
Mais quand je
Il est retourné dans sa ville natale,
À Drummondville. Donc, à Drummondville, le 6 a coupé tout simplement.
Le 6 a décidé de couper les heures. Au début, il t'en avait coupé beaucoup. Ils t'en ont redonné une partie. Mais il y a quand même un manque. C'est surtout pour la surveillance de nuit. Mm-hmm. Les douches. Ah, on a le droit de prendre une douche à tous les jours?
Bien sûr.
Bon, ben le CIUS juge qu'il pourrait se laver à des barbouillettes à tous les jours.
Je
suis représentant, je rencontre des clients.
Exactement, oui. Donc, vous avez besoin effectivement de prendre une douche une fois de temps en temps. Ça peut aider à clore des ventes.
Voilà.
Que de sentir bon, un peu.
Oui.
Oui. Je veux juste dire aux gens qui nous écoutent que Marie-Kim Charbonneau est avec nous.
Oui.
Vous êtes une grande complice de Sébastien. Puis des fois, vous devenez pas sa voix directement, vous devenez son interprète.
Son interprète, voilà. Je suis habituée avec Sébastien.
Oui, on entend ça. On vous entend bien. Et donc, est-ce que vous pensez que toutes les personnes devraient faire des shows d'humour ou il faut faire un petit peu de travail de défense de droit?
C'est vont faire du travail.
Ouais.
Parce que la communauté artistique,
ouais,
peut pas venir en aide à tout le monde.
Parce que la communauté artistique peut pas venir en aide à tout le monde.
En effet. Mais on est heureux qu'elle l'ait fait avec vous, pour vous. En terminant, est-ce que vous auriez un message final en peu de temps à dire aux gens qui nous écoutent, peut-être un endroit où aller avoir plus d'informations ou ce que vous voulez?
Vous pouvez aller sur mon site web.
Vous pouvez aller sur mon site web. C'est sébastienlepage.com, tout en plus, un mot.
Dans un mot, et en plus, on le repointera à partir de notre site web de l'émission, où vous pouvez non seulement répondre aux questions, mais aller voir ou revoir ou réentendre les intervenants qu'on a eu ici à l'émission. Merci beaucoup, Sébastien Lepage, représentant pour Kinova Robotique, mais aussi grand amateur d'humour. Merci à vous.
Merci pour l'invitation.
Un plaisir.
Merci pour l'invitation.
Et on n'oublie pas Marie-Kim Charbonneau, qui est une interprète parfaitement sympathique. Merci à vous deux.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Question de la semaine. Est-ce que les personnes réfugiées en situation de handicap reçoivent suffisamment d'aide pour assurer leur inclusion au Québec? Que pouvons-nous faire pour les soutenir?
Merci de répondre à la question. C'est important. Vous le savez, on a besoin de ces expériences multiples. On n'a pas beaucoup insisté sur le fait que parmi ces réfugiés, il y a aussi des personnes qui doivent vivre avec une déficience qui est plus perceptuelle, des troubles de santé mentale ou même doivent composer avec le choc post-traumatique qui peut se déclencher à tout moment dans la vie. Mais c'est important de le rappeler parce que au-delà de cette expérience qui est en soi difficile de quitter parfois un pays en guerre ou un pays en proie à toutes sortes d'exploitations de ses citoyens et citoyennes, en plus, parfois et souvent, on vit avec des handicaps qui surviennent après ces expériences difficiles. Donc, je vous invite peut-être à raconter ces histoires que vous avez vécues, à peut-être dire aussi vos histoires heureuses de résilience, puisqu'il y en a, c'est important. D'ailleurs, une de nos deux invitées qui est venue un peu plus tôt, qui est travailleuse sociale et psychothérapeute spécialisée pour ces questions du Rivo, Véronique Harvey, me disait qu'il y avait tellement d'histoires de résilience qu'on devrait davantage comprendre toute l'importance d'un bon accueil des personnes réfugiées. On pense entre autres au ministre canadien de l'immigration qui est lui-même un ancien réfugié. Ça donne à réfléchir en tout cas. N'oubliez pas non plus que le 4 avril prochain, c'est la journée pour les droits des réfugiés. Hein, c'est un bon moment pour se rappeler de l'importance de reconnaître leurs droits. Et aussi, vous pouvez partager ça. Hein, il existe non seulement le site du Centre canadien des réfugiés, mais aussi des centres de réfugiés à travers le monde, aussi à l'ONU, une agence dont ils s'en occupent. Donc, n'hésitez pas à vous-même être des promoteurs de ces droits pour les personnes. Ça ferait du bien plutôt que ces vagues d'intolérance qui alimentent, qui inondent, je dirais, nos réseaux sociaux. Alors, continuez sur canalm.vuesetvoix.com à nous écrire aussi sur les réseaux sociaux, sur cette question ou sur les autres questions qui vont venir un peu plus tard. Je dois remercier... C'est la fin de l'émission qu'il commande. Je dois remercier les gens qui ont contribué à cette dernière émission. Donc, merci Sylvia Bissonnette du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec. C'est important, il n'y a pas beaucoup de groupes, je dirais, de la société civile qui réfléchissent à ce premier handicap, j'oserais dire, qui est la pauvreté. Aussi, on remercie Sonia Boucher, intervenante en santé sexuelle, Tommy Théberge, qui nous promet de revenir, hein, ce conseiller municipal de la ville de Longueuil, qui manque pas de vision et qui est en situation d'handicap aussi, qui va nous parler du monde municipal mensuellement. Bien sûr, notre table ronde grandement enrichie grâce à Véronique Harvey du Rivo et Sylvain Thibault de du TCRI. Et on vient d'entendre cette histoire heureuse là, où on a réussi à se dépatouiller de ses coupes, sortir de ses coupes, c'est-à-dire Sébastien Lepage, qu'on peut retrouver sur Internet, qui en est à son 4e spectacle d'humour. Alors, merci à vous toutes et tous d'être venus à l'émission. Permettez-moi aussi saluer l'équipe sans qui cette émission sera impossible. On pense ici à Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'est Benoît Racette qui vous parle. On se reparle bien sûr la semaine prochaine et là, je vous fais une finale un peu plus longue d'ici là. Et un peu après qu'on ait discuté pas toujours bien de notre capacité d'accueil des réfugiés, la place des bons pauvres et des mauvais pauvres aussi, je nous souhaite pas seulement un accès libre, mais aussi un accès émancipateur et pour tout le monde. Rien de moins. Voilà. Bonne semaine.